On peut le dire en mots, l'amour. On peut le dire en gestes. On peut le dire en art. On peut le dire de toutes sortes de manières.
Bonjour, je m'appelle Martine Podesto. Je suis directrice des éditions chez Québec Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Chez l'éditeur. Mon invité d'aujourd'hui est partie de Lévis ce matin, a bravé la palpitante autoroute 40 et retourne chez elle en fin d'après-midi auprès de ses tout-petits. Je vous présente la courageuse, dynamique et passionnée Valérie Harvey. Valérie, merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Valérie, tu viens tout juste de publier ce printemps un beau recueil. L'amour au cœur de la vie, c'est une œuvre collective que tu as dirigée et qui explore les multiples visages de l'amour vus à travers le regard de 15 auteurs. Quelle belle idée! Et dis-moi, comment s'est présentée cette idée-là? Pourquoi tu as eu l'idée de te lancer dans un projet comme celui-là?
Bien, il y a eu deux éléments déclencheurs. La première chose, c'est qu'à chaque fois qu'on avait la Saint-Valentin qui approchait, je voyais les gens qui insistaient beaucoup sur donner des chocolats, hein, puis aussi le côté très sexuel de l'amour puis de la passion, ce qui est bien agréable, là, on ne se le cachera pas, mais qui me semble un peu réducteur par rapport à ce que c'est l'amour puis ce que ça demande comme investissement aussi puis à quel point ça peut t'amener ailleurs. Puis aussi, il y avait ce côté-là du côté de l'amour du couple. Mais la deuxième chose, c'est encore une fois autour de la Saint-Valentin, je voyais des amis qui n'étaient pas en couple qui disaient « Moi, je déteste cette fête-là parce que toutes les couples s'affichent, puis moi, je suis tout seul, puis je me sens extrêmement encore
plus… » Je reçois pas de fleurs, puis je reçois pas de chocolat.
Puis là, je me suis dit « Mais ça ne marche pas ce qu'elle est en train de me dire là. » Parce qu'elle est en train de me dire que l'amour, c'est juste entre un couple. Alors, je m'excuse, j'aime mes enfants. Il y en a qui aiment Dieu. On peut aimer son travail passionnément aussi. Donc, je pense qu'il y a énormément de différentes formes d'amour. Puis moi, à chaque Saint-Valentin, mes parents m'envoient encore une carte, là. Fait que je pense que j'avais déjà cette... Ça faisait longtemps qu'on cultivait cette idée-là que l'amour n'était pas uniquement présente chez le couple. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu après la Saint-Valentin que j'ai écrit à Québec Amérique en disant... on fait-tu quelque chose avec l'idée que l'amour, ça a plusieurs formes, puis qu'on parle peut-être juste... En tout cas, on insiste beaucoup sur une forme, mais il me semble que c'est plus large que ça.
Oui, puis au cœur de l'amour...
C'est plus nourrissant aussi que ça.
Absolument. Ouais. Puis au cœur de l'amour aussi, il y a différents aspects. C'est-à-dire qu'on parle de l'amour entre deux êtres humains, mais l'amour donne aussi du courage. L'amour, c'est aussi l'empathie, c'est aussi la gratitude, c'est aussi... Là, il y a plusieurs dimensions. Puis je pense que c'est ce que les auteurs, avec toi, avaient exploré. Tu les as choisis comment, ces 15 auteurs, et pourquoi?
J'ai essayé d'aller chercher des gens que j'avais déjà lu, et je trouvais qu'il y avait déjà une forme d'amour qui venait rejoindre un peu la vision de ce que je cherchais là, comme texte dans ce recueil-là. Donc, une profondeur, une réflexion, donc des histoires qui viennent nous toucher. Je me rappelle avoir lu Le Recrue de Samuel Champagne, puis c'est une histoire qui m'avait beaucoup touchée. J'avais trouvé ça absolument fantastique, à quel point c'était authentique. Donc, c'est pour ça que je suis allée chercher ces auteurs-là, puis j'ai été étonnée. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses positives. J'en ai contacté davantage que ce qu'il y a là. Mais à un moment donné, il fallait que j'arrête.
Mais les gens ont déjà des engagements parfois.
Oui, c'est ça. Ouais. Puis, mais je trouve ça... je trouve que je suis très choyée d'avoir eu tous ces gens-là qui ont dit oui, parce que moi, je les aime tous. Donc, j'étais celle qui recevait leur texte en premier. Donc, j'avais la chance de les lire au tout début. Donc, à chaque fois, je me sentais comme privilégiée. C'était un privilège, vraiment.
Oui. Catherine Perrin, entre autres, qui a publié ici un magnifique, magnifique récit, Une femme discrète, il y a de ça quelques années, et qui collabore aussi de très, très belle façon.
C'est un des textes...
magnifiques.
Oui, vraiment. Il y a à la fois, on dirait, une touche très, très poétique, puis... très touchant, parce que l'histoire qu'il raconte, c'est... Puis on voit en même temps que c'est une musicienne, parce qu'il y a un rythme qui est très important dans le texte. Donc, j'aime beaucoup ce texte-là aussi.
Je sais que les auteurs qui ont collaboré au recueil ont été invités à choisir un maître mot qui définit ou qui donne le ton à leur œuvre. C'est donc à partir de ces mots-clés qu'ils ont développé leur texte. C'est un défi, c'est tout un défi. Pourquoi avoir choisi de travailler comme ça?
Ben, je voulais essayer de tracer un portrait de l'amour. Bon, on s'entend qu'avec 15 mots, c'est pas tout à fait exact. Là, on pourrait en mettre une centaine, je pense, sur ce, sur un sentiment comme ça. Mais au moins, je voulais que chaque personne essaie de se limiter, si on veut, à qu'est-ce qui lui semble essentiel dans cette émotion-là, ce sentiment-là. Qu'est-ce qui est beau aussi? Parce qu'il me semblait qu'on parle beaucoup, quand on lit sur l'amour, des trahisons, hein, de la difficulté, du deuil aussi, quand on aimait quelqu'un puis qu'on l'a perdu. Puis, on oublie toute la partie que même si une personne n'est plus là, on a quand même vécu quelques années avec elle. Et je pense que plus tard, on se rend compte que ça nous laisse quelque chose. Ça nous a changé à plusieurs niveaux. Ça a fait la personne qu'on est maintenant. Même si, bon, ça peut s'être fini dramatiquement ou tristement ou juste une mort, ça peut arriver aussi. Donc, ça, c'est par rapport au couple, mais ça peut être par rapport à un animal. Hein? On a des chiens pendant 12 ans. Après, ils nous laissent. Puis on en sort quand même avec quelque chose qui nous a portés pendant ces années-là. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais regarder. Qu'est-ce qui est beau dans l'amour? Donc, ça a été la première question que j'ai lancée aux auteurs. Quand vous allez m'avoir trouvé le mot, parce que je voulais que chacun ait un mot différent, envoyez-moi ça. Puis ensuite, je vous dis oui, OK, on ne l'a pas encore, celui-là. Puis, lancez-vous dans une histoire qui va représenter ce mot-là. Qu'est-ce que c'est pour vous le don de soi? Qu'est-ce que c'est le partage? Qu'est-ce que c'est le respect? Qu'est-ce que c'est le risque? Mmh. Il y a toutes sortes de mots qui sont sortis, des mots inattendus.
Oui, absolument.
Oui. Donc, pour moi, ça a été très enrichissant aussi.
Valérie, tu as réuni une très belle, très, très belle cohorte d'auteurs, au nombre desquels on retrouve avec plaisir Mélissa Véro, la religieuse et sexologue aussi, Marie-Paul Ross, et le père Benoît Lacroix. Décédé l'année dernière, malheureusement, à peu près à pareille date. Là. Je pense que c'était le 2 mars, à l'âge de 100 ans. Quel honneur ça a dû être d'aller à sa rencontre. Ou en fait, je pense que tu lui as parlé. En fait, raconte-moi comment ça s'est passé. Puis j'aimerais ça que tu me parles un petit peu du très beau texte qu'il a écrit.
Bien, le père Benoît Lacroix, ça a été justement autour de son anniversaire, qui est le 9 septembre, ou le 8 septembre, si je me souviens bien. Il y avait eu un article dans Le Devoir. Puis dans la première phrase de l'article, il disait « L'amour est c'est le sextant de ma vie ». Ça veut dire le sextant, c'est un ancien outil qui nous guidait quand on était en bateau. Et je me suis dit « Mon Dieu, moi je suis en train de faire un recueil sur l'amour ». Puis il est en train de dire qu'il a vécu pendant 100 ans en se laissant guider par ce sentiment-là. Fait qu'il faut absolument que j'aille le rencontrer. Je n'avais pas pensé à lui de prime abord. Et je lui ai téléphoné, il m'a répondu. Puis il a dit « Ben oui, viens-t'en, quand est-ce que tu veux venir ?» Fait que j'ai fait comme aujourd'hui. Je suis partie un matin, puis je suis allée le rencontrer. C'était le lendemain de son anniversaire. Et il m'a accueilli. On s'est assis. Je l'ai enregistré. Je lui ai posé des questions. Rencontre extraordinaire. Puis ensuite, j'ai tapé cette rencontre-là que je lui ai envoyée. Donc, il m'a envoyé quelques commentaires. Puis, donc, le texte a été approuvé, si on veut, comme ça. Puis c'est quelques mois plus tard qu'il s'est éteint.
C'est un beau texte où il y a beaucoup de questions de l'amour de soi aussi. Puis il y en a questions aussi dans un autre texte du recueil. Premier. Puis je trouvais ça dans le premier. Et je trouvais ça tellement vrai, intéressant, c'est-à-dire que pour aimer les autres, il faut connaître d'abord ce sentiment pour soi-même. Il faut s'aimer pour... Bon. Et puis, il aborde beaucoup cette question de l'amour de soi.
Oui. Puis tu vois, depuis le début de notre entrevue ensemble, on a parlé de l'amour avec plein de personnes puis avec plein de choses, mais on n'avait pas encore dit qu'avant tout ça, il faut apprendre à s'aimer soi-même.
Ouais.
Donc le Père Lacroix, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'est le premier texte qui a été terminé, évidemment, parce que ça a été un témoignage. Sauf que c'est le texte final et étonnamment, on dirait qu'il avait lu tous les autres textes. C'est-à-dire qu'il parle de l'amour de soi. Il parle de l'amour de Dieu, d'importe quel Dieu. Il parle donc de l'amour de l'être humain. Il parle de
l'amour-passion
L'amour-passion, il le justifie. Il parle aussi de l'amour qui dure. Il parle du don de soi. Donc, vraiment, il va partout. Puis c'est comme si, en lisant son texte, je sais qu'il y en a qui l'ont lu en premier. On peut lire un texte dans l'ordre qu'on veut, là, quand on ouvre un recueil. Mais son texte à lui... Il y a toutes les formes d'amour qu'on a traitées dans le recueil auparavant. Puis ça, je trouvais ça extraordinaire en relisant après à quel point il avait vu juste. Puis bon, quand tu as 100 ans, on espère tous être aussi sages et éclairés. Mais c'est effectivement très inspirant de faire une rencontre comme ça.
Valérie Harvey sait à quel point l'amour qui est au cœur de la vie nous anime et nous fait voyager. Son coup de cœur pour le pays du soleil levant, en 2006, colore depuis plusieurs facettes de sa vie personnelle et artistique. Valérie, on fait un grand saut en arrière de 10 ans, à peu près. On est en 2006. Tu quittes le Québec pour aller t'installer un an à Kyoto, au Japon. J'ai vraiment envie que tu me parles de ce coup de cœur, de ce coup de foudre pour le Japon.
Ça a commencé parce que, en même temps que je faisais mes bacs, j'avais parti aussi un certificat en langue. Puis là-dedans, tu as plein de langues. Tu sais. Moi, j'ai toujours été fascinée par les langues parce que je trouve que ça donne une bonne idée des pays qui la parlent aussi. D'une certaine manière, maintenant, j'étudie en sociologie, je me rends compte que la manière que j'abordais les langues, c'était pas mal la manière d'une sociologue. C'est-à-dire que je voulais comprendre une société par la langue qu'elle parle. Parce que dans la langue, ben, le sexisme qu'on parle en français, par exemple, tu sais, en France, on ne veut pas dire une docteure ou une auteure. Ben, ça veut dire quelque chose sur la société. Hein, oui, voilà. Donc, j'avais étudié, évidemment, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur le japonais. Ah, la sonorité. Moi, je chante aussi.
Oui.
Hein.
Oui,
donc, c'est super important la manière dont une langue va sonner. Je suis en amour avec le français parce que c'est une langue qui se chante bien.
Oui.
C'est une langue qui me semble très belle, très poétique. Mais le japonais, c'est comme, je m'en rends compte maintenant, c'est à peu près au même niveau que le français. C'est-à-dire, c'est une langue de cœur. C'est une langue qui me touche, que j'aimais.
En tout cas, poétique, pour moi qui la connais pas du tout.
Ben c'est très beau,
il me semble que ça...
plein de voyelles. C'est une langue qui a plein de voyelles, donc c'est très agréable à parler. Puis c'est très agréable à chanter. Donc au début, c'était juste la prononciation qui m'a attirée finalement, on pourrait dire ça. Hein? C'est pas mal de base. Mais maintenant que j'ai vécu au Japon en tout à peu près un an et demi là, avec Kyoto, on est retourné 3 fois.
Mais la première fois que tu étais allée au Japon, c'était... pour parfaire l'étude de la langue,
oui,
là, que c'était pour ça seulement.
Oui, oui, on est parti en visa vacances-travail, puis pour découvrir le pays, évidemment, là, ça faisait des années qu'on rêvait d'y aller.
Avec ton amoureux.
Oui, je suis partie avec mon chum.
Okay.
On est arrivés tous les deux là-bas, on avait vendu notre auto, on avait mis notre appartement dans un entrepôt.
Quelle belle aventure.
Puis on a laissé Montréal et nos emplois, puis on est parti à l'époque, on était à Montréal, puis on est parti à Kyoto. Donc, t'es arrivé là, pas d'emploi, pas rien, puis là, tu commences tout du début, c'est très difficile, puis tu parles avec un japonais... très...
Approximatif,
disons-le. Surtout, ben, tu es capable de poser des questions, mais tu ne comprends pas la réponse. C'est pas très utile. Mais, donc, après, maintenant, aujourd'hui, là, après 10 ans, là, c'est différent. Qu'est-ce qui motive mon amour du Japon?
Oui.
C'est plus seulement la prononciation de la langue ou la beauté ou l'intérêt pour une culture différente. C'est... les Japonais sont... c'est les Japonais, finalement. C'est la culture du Japon, mais surtout les gens qui y habitent. C'est-à-dire que ce sont des gens que c'est pas nécessairement facile d'avoir un contact, en tout cas au premier abord, plutôt réservé.
Ah oui.
Oui, c'est dans leur culture, hein, on dérange pas. Okay. Donc, on respecte l'autre. C'est une culture de respect, beaucoup. Donc, ils ont le groupe, l'espèce d'appartenance à un groupe. Fait qu'entrer dans ce groupe-là, ça peut être difficile au début. Mais aujourd'hui... T'sais, après plusieurs années, puis de liens qui se font avec ces gens-là, c'est ça, c'est cette histoire de fidélité-là. Quand tu écris à des Japonais, on te répond. Quand tu écris à tes amis, on va te répondre. Alors pour moi, cette façon-là de répondre quand on écrit, puis de cultiver les liens, c'est quelque chose qui me touche beaucoup du Japon. Donc, c'est le respect, la politesse, la fidélité. Donc, c'est peut-être long avant qu'il y ait un lien. Ce qu'on appelle en japonais le N. Hein, le lien. Mais quand il est là, on le respecte. Au Japon, on appelle ça avoir la dépendance. La dépendance en français, c'est pas un mot positif. Pas vraiment.
Ah,
en tout cas, on s'entend que c'est surtout négatif.
Ouais.
En japonais, le mot amae, qu'on traduit par dépendance en français, il peut être à la fois positif et négatif. Donc, ça veut dire
dans
que c'est une forme d'amour. On revient encore à l'amour. Hein?
Oui.
C'est-à-dire que si cette personne-là, elle fait partie de tes liens, de tes... Tu te dois...
De t'en occuper, de chérir ce lien, cette
relation. De l'entretenir et de répondre quand il y a une question ou qu'elle a besoin d'aide. Et je trouve que ça, c'est merveilleux, que ça soit dans une culture.
Oui. Puis cet amour du Japon, ça t'a mené... à écrire je dirais un essai, mais est-ce qu'on était plus près du guide?
Du carnet de voyage guide, oui.
Donc, tu as fait ça. Ensuite, tu as collaboré à une série pour les tout-petits aussi, oui. Où il était question de la découverte du Japon à travers mm-hmm. toi-même, ton regard, parce qu'il y avait des photos, je pense, oui. que vous aviez prises là. Et là, ben écoute, j'ai envie qu'on parle d'une autre œuvre influencée par ton amour du Japon, Les Fleurs du Nord, un magnifique, magnifique roman jeunesse pour adolescents que tu as publié il y a de ça pas très, très longtemps. C'était en novembre dernier.
Oui.
Raconte-moi un peu comment c'est né.
Moi, mon père est peintre, hein, mais je dessine comme un pied. Donc, ça ne veut pas dire les choses, malheureusement, ne sont pas toujours justes. Donc, si j'avais pu, c'est ce genre de choses que j'aurais dessinées. C'est-à-dire que, oui,
parce
c'est
que
inspiré. Oui, je l'imagine bien. Beaucoup. C'est-à-dire que dans ma tête, quand je vois ce roman-là, je le vois vraiment comme des scènes.
Là, et d'ailleurs, ça se sent tellement à travers la lecture, on a l'impression d'être là. On est dans un Japon, une île japonaise du Nord que tu as imaginée.
Que j'ai imaginée, parce que je ne voulais pas qu'on me reproche de ne pas respecter l'histoire japonaise.
Mais on sent, on voit les paysages, on sent les parfums. C'est effectivement cette impression qu'on a de le voir presque comme une bande dessinée, mais c'est assez particulier comme expérience de lecture.
Donc ça, c'est ce qu'on appelait à la base une fanfiction, c'est-à-dire, en anglais, je m'excuse, mais c'est une histoire que j'avais faite pour faire suite à un manga que j'avais bien aimé. Et au fil des années, il y avait un personnage qui était tiré du manga, puis au fil, à force de faire des suites, puis des suites, puis des suites à mon histoire originelle, qui était au début juste un chapitre, je me suis rendu compte que finalement, j'avais développé tout un réseau de personnages qui n'étaient pas tirés du manga. Que l'histoire originelle, le manga, il était dans un monde chinois, puis que moi, je me rendais bien compte que mon affaire à moi, c'était dans un monde japonais, parce qu'on parle de ce qu'on connaît. J'ai jamais été en Chine. J'ai été au Japon. Donc, c'est sûr que c'était beaucoup plus japonais, mon affaire, que chinois. Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, tu sais, quand on a parlé de l'amour au cœur de la vie tantôt, puis je me rends compte que dans Les Fleurs du Nord, c'est encore le même thème. C'est-à-dire que moi, je veux toujours aller chercher qu'est-ce que permet l'amour, hein? Parce qu'au début, là, Midori puis Tatsuki, c'est deux êtres qu'ils n'ont pas facile. Tu sais, Tatsuki, il vient de sortir d'une guerre.
Oui.
Où il était un des guerriers là, qui a combattu puis qui a gagné, d'accord. Sauf qu'il n'en sort pas nécessairement avec le sentiment que ça se fait sans peine. Hein, on tue du monde, c'est pas plaisant. Puis Midori, elle, est une étrangère, c'est-à-dire qu'elle s'est faite arracher à son pays, puis a tout perdu. Là. Donc elle, dans son idée, c'est qu'il faut qu'elle se venge. Puis, donc c'est deux êtres qui sont blessés, qui vont pas bien au début. Puis je pars toujours du moment où ils vont pas bien, puis après ça, ça va mieux. T'sais, on essaye d'aller mieux dans mes livres, toujours. Donc, je raconte pas tant que ça, le moment où ça s'est... T'sais, comment tout est arrivé pour que ça aille pas bien. Je raconte beaucoup plus la montée. Donc, la guérison à travers l'amour, les liens qui se forment, puis l'attachement. Puis je pense que qu'encore là, on va le retrouver. Donc, la première, si on veut, il y a trois sections majeures, trois chroniques dans ça. C'est une espèce de saga, comme tu disais. Donc, la première saga, la première chronique va s'attarder au développement du lien entre Midori et Tatsuki, puis comment ils vont régler les conflits, puis leurs blessures aussi. Puis la deuxième chronique, on va s'attarder à leur aînée, donc leur fille aînée, qui s'appelle Aki, qui tu sais, elle a eu quand même une vie stable, mais c'est pas nécessairement facile par rapport à tout ce qu'elle est, parce que malheureusement, elle a hérité des pouvoirs du feu de son père, alors que la magie est en disparition pratiquement dans toutes les familles qui existaient auparavant. Et elle est une fille. On n'est pas dans un monde égal. Mmh. On n'est pas dans un monde qui se dit « Ah, c'est donc bien le fun que tu aies des pouvoirs magiques. » On est dans un monde qui se dit « Oh, une fille puissante, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? »
On est à l'époque médiévale aussi.
Oui, oui, on est à l'époque médiévale. On monte loin. Donc, elle est un petit peu un problème. Mmh. Ses parents ne savent pas trop, surtout son père, comment gérer ça. Tu sais, comment elle ne peut pas s'intégrer à l'armée. Elle ne peut pas combattre tant que ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec Aki? Donc, ça part de là, puis bon, ben Aki, on suit son destin pendant les deux chroniques, là, à travers l'histoire.
Pendant les deux dernières.
Oui. Donc. Ce que j'aime dans Les Fleurs du Nord, c'est que, tantôt on l'a dit, je chante.
Oui.
Bien, Les Fleurs du Nord, j'ai intégré des textes de chansons qu'on a écrits et qu'on chante en japonais. Et au moment où il y avait le montage du livre puis tout ça, à un moment donné, la correctrice dit ça, je peux pas le corriger, hein, parce que c'est en japonais. Fait que là, j'ai dit, elle a bien raison. Fait que là, j'écris à une amie au Japon, puis je lui dis, est-ce que tu pourrais corriger les textes? elle me dit, bien sûr, envoie-moi ça. Elle dit, est-ce que je peux te les envoyer par la poste? Je dis, mon Dieu, pourquoi elle veut m'envoyer ça par la poste?
Oui,
je dis, bon, on va avoir le temps d'y recevoir 2017. Avant d'envoyer ça à Québec-Amérique. Je vais être correct. Donc, elle m'envoie les textes par la poste. Je reçois une enveloppe. Et là, j'ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, bien sûr, il y a le texte que j'avais envoyé avec les corrections en rouge. Mais il y avait aussi des papiers, 5 papiers, avec les mots du texte écrit en calligraphie japonaise. Et là, on était à la toute fin du montage. J'écris, est-ce qu'on peut intégrer les textes, mais en calligraphie japonaise à l'intérieur du livre? Et vous l'avez fait.
Oui.
Je suis tellement heureuse, gratitude infinie, parce que c'est tellement beau, parce que c'est une calligraphe, là, elle écrit vraiment bien. C'est une dame... plus âgée, donc elle l'a appris, puis elle pratique. Et je suis vraiment contente. Donc, il y a 4 parchemins, si on veut, de calligraphie japonaise avec la traduction. Là, soyez rassurés.
Oui. Valérie, à chaque épisode de Chez l'éditeur, je demande à mon invité de partager avec nous une œuvre. Ou de nous parler d'un auteur qui l'a particulièrement aimé, qui l'a inspiré. Donc, je pense que tu as fait ton choix. Aujourd'hui, tu vas nous parler de qui et de quoi?
Je vais vous parler de Anne, la maison pignon vert. En fait, de toute la série d'Anne, hein, parce qu'il y a 8 livres. Maintenant 9, d'ailleurs. Oui, il y en a publié en anglais, oui. Donc, l'auteur Lucie Maud Montgomery. Quand je devais avoir 10, 12 ans, je suis tombée là-dessus. Puis, je les achetais, là... un par un, parce qu'à l'époque, on n'a pas beaucoup d'argent. Hein, donc, j'économisais pour m'acheter chacun des livres parce que je voulais les avoir, pas juste les avoir lus à la bibliothèque. Qu'est-ce qui me touchait là-dedans? Ben, c'est le personnage d'Anne. Elle est sensible, mais elle est forte. Tu sais, habituellement, on dit que la douceur, que la gentillesse, hein, c'est un petit peu être bonasse, c'est bon. Hein, avouons, on voit ça comme ça. Quelqu'un qui est fin ou qui est doux, on dit que c'est quelqu'un qui est...
Elle avait tout un caractère quand même.
C'est ça. Oui, mais ça ne l'empêche pas d'être justement capable de faire des liens, d'être capable d'être émotive, d'être capable de voir la beauté puis d'être d'une grande douceur. Donc, je trouvais que c'était... ça faisait du bien. Surtout qu'à l'époque, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, là, mais c'est encore vrai malheureusement. Les modèles féminins, c'était beaucoup des filles qui obéissaient à ce qu'on leur disait de faire, hein, tu sais, puis les princesses. On a encore ça pas mal, les princesses, mais au moins, il commence à avoir une variété de princesses. Mais je me disais, ça me convenait pas. Mm-hmm. J'étais peut-être pas une petite fille comme ça. Fait que Anne venait me chercher, parce que...
C'était un beau modèle pour toi.
Ouais, c'était un beau modèle.
Et je pense que tu as choisi de nous lire un extrait.
Ouais. Un D'accord, extrait qui montre bien la personnalité d'Anne.
Ah oui? Bon, OK. Écoute, vas-y, on t'écoute.
Alors, ils sont à l'école, OK? Rien de particulier ne se passa avant l'après-midi. M. Phillips était retourné dans le coin pour expliquer à Prissy Andrews un problème d'algèbre et les écoliers se trouvaient livrés à eux-mêmes. Ils mangeaient des pommes vertes, échangeaient des murmures, dessinaient sur leur ardoise et faisaient courir le long de l'allée des attelages de grillons attachés à des fils. Gilbert Blythe, lui, tentait d'attirer l'attention d'Anne et n'y réussissait guère, car Anne, à ce moment-là, avait complètement oublié non seulement l'existence de Gilbert Blythe et des autres, mais aussi celle de l'école d'Avonlea tout entière. Le menton posé sur les mains, les yeux amarrés à l'extrémité bleue du lac au miroir que l'on pouvait apercevoir par la fenêtre de l'ouest, elle avait gagné un merveilleux pays de rêve, désormais attentive aux merveilles oniriques de ses seules visions. Gilbert Blythe, lui, n'avait pas l'habitude d'échouer lorsqu'il s'enforçait d'attirer l'attention d'une fille. Elle devait le regarder, cette Shirley aux cheveux roux, au petit menton pointu et aux grands yeux qui n'avaient rien de commun avec ceux des autres filles de l'école d'Avonlea. Gilbert tendit son bras de l'autre côté de l'allée, empoigna l'une des longues tresses rousses d'Anne et la leva à la hauteur de son épaule en lançant d'une voix stridente « Poil de carotte! Poil de carotte! » Alors oui, Anne daigna le regarder. Mais de quelle façon! Elle fit plus que le regarder, d'ailleurs. Elle fut debout en un instant, toute rêverie évanouie. Elle foudroya Gilbert d'un regard brillant de colère et de larmes. « Détestable! Méchant garçon! » s'exclama-t-elle d'une voix passionnée. « Comment osez-vous? » Et puis, paf! Anne assena un grand coup d'ardoise sur la tête de Gilbert, la brisant tout net, l'ardoise, non la tête, en 2 morceaux. À l'école d'Avonlea, on appréciait fort les scènes. Celles-ci étaient particulièrement réjouissantes. Tout le monde poussa un « Oh! » où se mêlaient l'horreur et la délectation. Diana en resta bouche bée. Ruby Gillis, qui avait des tendances hystériques, se mit à pleurer. Tommy Sloan laissa échapper son équipage de grillons et demeura bouche bée, les yeux rivés sur la scène. Monsieur Phillips descendit l'allée à grands pas et posa une main lourde sur l'épaule d'Anne. « Anne Shirley, qu'est-ce que cela signifie? » fit-il en colère. Anne n'avait rien à répondre. C'était trop lui demander à elle, une petite fille distinguée, que de condescendre à raconter à toute l'école qu'on l'avait appelée poil de carotte. Ce fut Gilberte qui courageusement expliqua. « C'est ma faute, Monsieur Phillips. C'est moi qui l'ai provoquée. » Mais Monsieur Phillips ne prêtait aucune attention à Gilberte. « Je n'aime pas voir une élève s'abandonner ainsi à ses humeurs et faire montre d'un esprit aussi vindicatif. » imit-il d'un ton solennel, comme si le simple fait d'appartenir à sa classe eût dû suffire à extirper les mauvaises passions du cœur de tous ces petits mortels imparfaits. « Anne, vous irez vous mettre debout sur l'estrade en avant, devant le tableau noir, et vous y resterez tout l'après-midi. »
Oh, ça fait... quel beau souvenir! Ça fait tellement de bien entendre.
Oui,
bel extrait. Merci, merci beaucoup, 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 Valérie. D'abord, merci de t'être déplacée aujourd'hui, d'avoir affronté la longue route au Québec-Montréal. C'est vraiment gentil, je l'apprécie. J'ai adoré discuter avec toi. Et puis, ben écoute, je te dis à bientôt, à la prochaine. Je pense que tu travailles sur un nouveau roman.
Ah oui, ouais, je travaille sur plein de choses.
Donc, on a bien hâte de te lire.
Merci.
Bonne fin de journée. C'est ainsi que se termine notre épisode de Chez l'éditeur. Aujourd'hui, Valérie Harvey et moi avons discuté du recueil « L'amour au cœur de la vie » et de son roman jeunesse « Les fleurs du Nord ». Valérie nous a aussi lu un extrait de « Anne, la maison au pignon vert » de Lucy Maud Montgomery. Chez l'éditeur est une production des éditions Québec-Amérique. Notre thème musical est l'œuvre de Monopole et la technique était assurée, une fois de plus, par mon collègue Philippe Collard. Je vous invite à passer nous voir à notre café littéraire chez l'éditeur, situé au 7240 rue Saint-Hubert à Montréal. Je suis Martine Podesto et j'espère vous retrouver au prochain épisode de Chez l'éditeur.